Après son retour en ville, Colin regagna son domicile. Comprenez par là un somptueux appartement dans les quartiers huppés. Luxe conquis par l'ancien forain à la suite de ses récentes rapines. Cependant, et malgré la douceur caressante de la soie et du satin de ses draps, notre homme ne dormit pas de la nuit. Le tourment le rongeait, le doute l'asticotait et l'espoir l'animait. Admettons que ce mélange fort peu homogène, cette alchimie obnubilante, laisse généralement peu de place à la sérénité. L'inquisiteur, voyez-vous, appréciait sa bonne situation et ne tenait pas à la perdre. Fût son confort bien mal acquis, il n'en demeurait pas moins, à son opinion, un contrepoids mérité à une vie tout du long misérable. Car oui, la survie au jour le jour, les jours sans lendemain et les lendemains sans horizon avaient lassé notre ami. Et pourtant, le célèbre et redouté fonctionnaire ne risquait-il pas de tout perdre s'il succombait à sa récente passion? Car que penseraient les citadins et son capitaine si notre ami se laissait s'enticher de celle considérée alors comme la plus terrible des sorcières du pays?
Marianne, Marianne, pourquoi a-t-il fallu que tu sèmes un tel doute en moi? Et diantre, comment être certain qu'elle ne m'a pas envoûté pour me piéger au fond? Espère-t-elle vraiment que je revienne la voir et...
Mais le prise en tout cas, patron. J'ai vu la fille que de loin, mais elle est jolie, je dois bien le dire.
Mouchard, mais qu'est-ce que tu fous dans mon lit?
Ben, ça sera plus simple d'embrayer sur la discussion qu'on a suite à votre dilemme si on doit pas justifier un changement de temps et de lieu. C'est ce que le compteur, il a dû se dire.
Certes, mais de te retrouver là, allongé à côté de moi, c'est de très mauvais goût en termes de cohérence. D'ailleurs, sans doute d'autant que le bonnet de nuit à pompons que tu portes, c'est ridicule.
Bah, c'est moi qui l'ai tricoté tout seul pendant que vous étiez dans le bain.
Quoi? Mais attends un peu. Mais c'est n'importe quoi ton histoire de conteur. En fait, tu profites de ta discrétion pour me squatter depuis que j'ai emménagé ici, avoue.
Tout à fait.
Ah, je me disais bien aussi l'autre soir que la tarte aux fraises avait bien vite disparu. Je n'en avais donc bel et bien mangé que deux parts.
Oui, Mouchard, il aime beaucoup les fraises. Ça me rappelle les bonbons à la framboise. D'ailleurs, vous en voulez un, patron?
T'es encore avec ça, toi?
Je suis devenu accro, je crois. J'en ai acheté plein avec ma part des sous. Et j'ai caché mon stock dans les coussins du canapé.
Hein?
Mais dites, patron, si on reprenait la conversation là sur votre dilemme, vous voulez vous taper la fille, mais vous avez peur que quelqu'un il aille le dire?
Oui, il y a de cela, mais j'ignore surtout si elle n'a pas implanté ce désir en moi par le biais d'un sort.
Si elle vous a fait de la magie, ah ben ça, personne il peut le dire.
Oui, pour l'instant, mais c'est pour ça aussi que tu y retourneras dès demain, Mouchard.
Hein? Moi tout seul?
Oui, non seulement cela soulagera ma demeure de sa vermine, suis mon regard, mais cela me permettra également d'en apprendre plus sur cette Marianne.
C'est-à-dire, je dois faire quoi, moi, dans son chalet?
Tu l'observeras en secret pendant 15 jours, et tu ne parleras de cette enquête qu'à moi seul. Tu me rapporteras le moindre des gestes de cette fille, Mouchard, la plus petite de ses activités, et tu...
Et même si elle fait caca, je dois le dire?
Non, enfin, encore que... Non, ça ira sans ça. Donc, tu me rapporteras tout ce qu'elle fait, tout ce qu'elle dit, tout ce qu'elle écrit, et si elle reçoit, qui et pourquoi. Est-ce que c'est bien compris? Mouchard, où es-tu passé?
Oui, ça va, je suis là. Je reprends juste mes bonbons dans les coussins avant de partir.
Et c'est ainsi que, dès l'aube, soit immédiatement vu que la nuit était déjà bien avancée, hein. Oui, donc dès l'aube que Mouchard partit seul et à pied vers les bois de l'ouest. Grâce à son talent de dissimulation dû à sa petite taille, l'espion ne fit pas moins que, oui, vivre dans le chalet de Marianne, oui, à ses côtés comme ça, à son nez, à sa barbe, hein. Oui, et ainsi donc, couvert par sa cape et tapis dans les recoins sombres de la cabane en bois, Mouchard espionna la jeune sorcière 2 semaines durant. Il ne se priva, par ailleurs, pas de puiser dans le garde-manger de la demoiselle, ni d'être au summum de son attention lorsque celle-ci, se déshabillait.
À ce moment-là, je vais peut-être pas aller le dire.
Bref, le nabo, fut-il vicieux et sans gêne, s'avéra très efficace et enregistra bon nombre d'informations sur son hôte involontaire. Oui, si petit et si discret, Mouchard ne fut jamais repéré. Tout au plus, Marianne perçut-elle quelquefois une furtive odeur de framboise autour d'elle, mais sans jamais pouvoir en identifier la source. Elle s'étonna également de retrouver, à l'occasion, la lunette des toilettes relevée.
Serais-je un garçon manqué somnambule? Je m'inquiète là.
Et les jours passèrent jusqu'à ce que les 15 convenus fussent écoulés. Aussi Mouchard finit-il par s'éclipser aussi imperceptiblement qu'il était venu, et il s'en retourna alors vers la capitale pour faire son rapport top secret à l'inquisiteur, lequel était à l'œuvre dans son bureau.
Revoilà, patron. Je vous dérange pas ?
Ah, Mouchard, tu es rentré. Non, je regardais juste le cours du bois dans la gazette. On a un jeune sorcier de 14 ans au cachot. Je voulais décider si je le brûle aujourd'hui ou si j'attends quelques jours. Alors dis-moi, quelle nouvelle ?
Bah, il s'est pas passé grand-chose, hein. En gros, la fille, elle passe surtout tout son temps à lire. Et des fois, elle va cueillir à manger dans les bois ou relever des collets. Mais je crois qu'il y a rien d'autre à dire.
Tu n'as donc rien vu de suspect ? Rien qui me concerne ?
Ah si, j'ai failli oublier.
Quoi ? J'avais raison, hein ? Elle m'a jeté un sort.
Ah non, c'est plutôt une bonne nouvelle, en fait.
Mais parle, bon sang !
Bah voilà, un soir dans son lit, elle s'est caressée en dormant à moitié et elle a murmuré votre prénom. En tout cas, c'est ce que je pense l'avoir entendu dire.
Oh, eh bien, c'est plutôt flatteur, non ?
Oui, mais moi, tous ces gémissements, ce soir-là, ça m'a empêché de dormir.
Mais qu'importe, Mouchard, tu ne comprends pas ? Elle m'attend donc réellement ? Bien.
Par contre, il y a autre chose.
Ah bon ?
Mais ça, c'est pas facile de le dire.
Mouchard, veux-tu que j'inscrive les bonbons à la framboise sur la liste officielle des objets de sorcellerie ?
Ah non, je vais le dire. Il y a eu 3 hommes qui sont venus voir la fille.
Quoi ?
Chacun à leur tour, à quelques jours d'intervalle. Ils voulaient tous savoir où trouver une fleur rare. Ça s'appelait des Asinus comedenti.
Hein ? Comment ça ? Et pourquoi faire ?
C'était des fleuristes pas très riches, mais qui voulaient le devenir. Alors, ils ont payé Marianne pour de ces fleurs à trouver réussir.
Je crains le pire, et je me sens point de ruinir. Et si l'un de ces ploucs venait à la séduire ?
Ah ben alors vous ne seriez plus qu'un souvenir.
Je dois réagir.
Je ne vous le fais pas dire.
Une bonne idée me vient. Fais donc venir les sbires.
Et quelques instants plus tard, Mouchard revenait dans le bureau de l'inquisiteur avec les 4 agents stagiaires, ou presque.
Je suis désolé, boss, mais j'ai pu trouver que les 2 sbires qui n'ont pas encore eu de réplique.
Ah oui, j'avais oublié. Les sbires Kevinson et Soprano Schneider sont en congé. Mais qu'importe, nous serons assez de 4. Messieurs, nous rouvrons aujourd'hui le dossier de la sorcière Marianne.
Oh, mes souhaits. Et accola donc d'exposer son plan. Mais le chef de département prit cependant grand soin dans sa façon de le formuler. Car oui, il était évident que l'imminente expédition devait sembler s'inscrire dans le cadre de sa fonction. Il ne fallait, voyez-vous, en aucun cas qu'on puisse percevoir que ses desseins étaient en réalité des plus personnels. Hein. Mais bref, l'inquisiteur parla. Tant et si bien que ses hommes de main, noyés dans un flot de mots savants, ne posèrent très vite plus aucune question et le suivirent ensuite docilement pour à nouveau chevaucher en direction de l'ouest, vers le chalet de Marianne.
Hey, mais ils auraient tous pu m'y rejoindre en fait, et ça m'aurait évité de courir.
Arrivé sur place, une fois de plus tapi secrètement dans la végétation, l'inquisiteur envoya l'un de ses 2 sbires, débarrassé de ses attributs de milicien, ça va de soi, pour qu'il aille se présenter à la jeune sorcière.
Est-ce bien compris, second sbire qui n'a jamais eu de réplique ? Tu te feras passer pour un fleuriste recherchant une Asinus comedenti. Tu donneras ces quelques sous à la sorcière pour payer l'information, et ensuite, tu reviendras discrètement et sans faire d'histoire. Allez, exécution !
C'est dommage. Pour une fois que ce gars, il a du texte, on sera trop loin pour l'entendre le dire. Mais je comprends pas pourquoi vous faites tout ça, patron.
Comme je te le disais tout à l'heure, nous allons vérifier de quelle teneur sont les activités commerciales de cette suspecte afin d'alimenter le dossier d'instruction. Mais je tiens avant tout à obtenir une de ces fleurs, Mouchard. Car si elles sont si précieuses et si Marianne en entend si souvent parler, peut-être sera-t-elle heureuse que je lui en offre une.
Ah, parce que c'est jamais pour elle que les gens y vont en cueillir.
Oui, voilà. Et comme cette plante fait partie de son quotidien, cela nous rapprochera.
C'est vrai que ça va sûrement lui faire plaisir.
Chut, tais-toi. Revoilà le sbire, hein, il a fait vite. Ah, et il tient un papier dans sa main, comme tu l'avais dit. Un plan menant à l'endroit où poussent ses fleurs. Bien, préparez les chevaux, nous allons nous y rendre.
Colin craignait que s'il revenait, peinot et sans rien auprès de son adoré, il ne serait alors qu'un visiteur ordinaire, fût-il peut-être apprécié. Car comment, en tant qu'homme de spectacle, notre ami pouvait-il se résoudre à revoir Marianne les mains vides? Non, il devait faire forte impression, car il était certain que leur prochaine rencontre allait devoir être mémorable pour être considérée. Et cela, à plus forte raison que... Colin n'aurait, sans cela, pas grand-chose à raconter à Marianne. Oui, imaginez, de quoi allait-il pouvoir lui parler sinon, hein? Certainement pas de son emploi, ou du moins, pas avant qu'un attachement mutuel se soit durablement installé entre eux. Cela dit, il allait sans doute devoir mentir à Marianne sur certains points, et cela jusqu'au moment d'avouer sa vraie identité. Et plus il mentirait, plus la pilule serait ensuite difficile à faire passer, hein. Et pourtant, l'inquisiteur savait qu'il regretterait plus qu'il ne serait soulagé s'il se dévoilait trop tôt. Ah oui, dilemme, dilemme et redilemme sur une triple couche de dilemme au carré. Ah oui, le tourment de notre pauvre homme n'en diminuait finalement pas vraiment. Ah mais que c'est merdique l'amour, hein. Comme le monde tournerait mieux sans cette immonde tare génétique pervertisseuse de raison, oui. Mais il faut bien vivre avec, hein. Et aussi Colin espérait-il, par le présent qu'il s'en allait quérir, forcer le destin le plus favorablement possible et offrir une conclusion heureuse à son intrigue. Et c'est donc après une longue descente vers le sud que la troupe milicienne arriva à l'orée de ce qui était alors nommé les bois impénétrables. Non dû à la très épaisse couche de très ancienne végétation qui gisait là, et cela depuis bien avant que n'apparut l'homme. Constatant cet état de fait, longeant et relongeant l'orée devant laquelle ils avaient fait halte, nos quatre voyageurs eurent bien du mal à trouver un passage qui leur eût permis de pénétrer dans les dix bois. Finalement, ils remarquèrent un genre de percée à la base d'un mur de ronces, mais hélas, trop étroite pour qu'un homme y passât. En tout cas, un homme est de proportion normale.
Pardon qu'en éclaireur, mouchard. Et si la voie est praticable de l'autre côté, nous te rejoindrons en nous frayant un passage à coups de glaive dans la broussaille.
Ce fut en grommelant que le pygmée rampa entre les ronces, tout en mastiquant nerveusement l'une de ses pastilles framboisées, elle qui au fil des mois l'avait rendue aussi large que haut. Et puis, au bout de quelques instants marqués par le silence, l'inquisiteur s'impatienta.
« Eh bien, mouchard, que vois-tu ? Mouchard ? T'es pas drôle, vraiment, hein ? Bon, peu importe, sortez vos armes, vous autres, on y va. »
Au terme de longues minutes d'efforts et de lentes avancées, Colin et ses deux sbires parvinrent dans une zone plus dégagée. En sueur, ils s'étaient, au-delà du mur d'épines desséchées, retrouvés au pied d'immenses arbres, hautes colonnes d'une essence inconnue et dont la cime feuillue barrait la route à presque toute lumière.
Mouchard, arrête de faire l'imbécile et montre-toi!
Mais point de réponse ne vint, non, non. Mouchard n'était décidément pas visible. En fait, la semi-obscurité locale ne laissait distinguer ça et là que quelques friandises rosâtres éparpillées sur le sol, comme chues au hasard sur les feuilles pourrissantes. Mais la formation de bonbons semblait cependant s'étirer droit devant nos explorateurs, telle une piste d'un enfant allemand des temps jadis. Il alla donc de soi que nos amis la suivirent, fût-ce avec appréhension.
Une chance que Kevinson ne soit pas là. Il est certain qu'il aurait, à ce stade, proposé qu'on se sépare, ce trou du con.
Mais à peine l'inquisiteur eut-il achevé cette pensée, qu'un mouvement brusque se fit sentir à ses côtés. Sans un son, et avec une rapidité incompréhensible, les deux sbires s'étaient mis à fendre les airs sur plusieurs mètres, avant de chuter, puis de glisser vivement sur le sol, en se débattant, pour ensuite disparaître dans les fourrés plus loin. Et à Colin de courir pour secourir ses compagnons, mais dans la clairière au-delà des dix fourrés, et dans laquelle il venait d'arriver, ce que découvrit notre ami ne put que le figer net. Les deux sbires avaient été mis en pièces par de puissantes extensions de racines qui sortaient de part et d'autre du sol, au milieu de trois fleurs rouges perchées sur de hautes tiges. Lentement, les membres végétaux filiformes menèrent jusqu'aux pétales des dites fleurs les membres arrachés des pauvres hommes de main. Colin remarqua soudain l'une des plantes sur sa droite, laquelle était en train d'engouffrer et de sucer une petite forme simiesque. Oui, c'était Mouchard, immobile, son petit corps frêle était alors impitoyablement ingéré, au même titre que les morceaux des deux stagiaires. L'inquisiteur était pétrifié d'horreur, dépassé, il n'arrivait plus à penser ou à réagir, semblant presque attendre que son tour vienne. Mais pourtant, après quelques instants, il se produisit quelque chose d'inattendu.
Quoi, mais...
Mais que font-elles ?
Comme pressenti, les fleurs s'étaient arrêtées de manger pour regarder dans la direction de Colin. Mais néanmoins, et à la grande surprise de ce dernier, les florales créatures ne l'attaquèrent point. Au contraire, même, elles semblaient, soudain, comme se prosterner devant lui. Notre pauvre ami ne saisit pas du tout ce qui était en train de se produire. Mais peut-être que vous, mes adorés et fidèles auditeurs, l'avez-vous deviné, non? Eh bien, tout simplement, les rudimentaires capacités oculaires des Asinus leur renvoyaient, voyez-vous, l'image d'un être encapé de rouge. Ce qui les avait fait, voyez-vous, penser que Colin était en fait leur reine, rentrée d'un voyage de prospection de proies futures. Et l'une des plantes, d'ailleurs, tout en s'inclinant, poussa même vers l'inquisiteur quelques morceaux de sbire.
Non merci, hein. J'essaye d'arrêter.
Bien que ne pigeant rien à tout ce cérémonial, l'esprit de Colin avait néanmoins profité de cette accalmie pour le rappeler à l'ordre. Aussi, notre cher inquisiteur saisit cette opportunité. Il réempoigna vigoureusement son glaive et se lança sans plus hésiter. D'un geste vif, le vaillant fonctionnaire trancha à mi-hauteur la tige de la fleur la plus proche, l'empoigna, puis s'enfuit à toute vitesse. Par chance, les plantes carnivores préhistoriques n'avaient pas réagi. Que leur chef ait décidé d'exécuter l'une des leurs n'avait rien de discutable, hein, vous en conviendrez. Hein. Et puis, c'était du reste ainsi, sachez-le, que les Asinus Comedenti se reproduisaient. Hein. Là où on en coupe une, il en repousse trois.
Il faudra que la reine ramène encore plus de proies pour nourrir les bébés.
Sans doute comprenez-vous mieux pourquoi Marianne allait ultérieurement faire fortune. Mais revenons donc à notre cher Colin. Celui-ci, à son grand soulagement, avait pu réussir à sortir indemne du bois. Mais, toujours pas de course, et avec l'Asinus morte dans la main, notre homme bondit sur le dos de son cheval. Il abandonna les montures de ses défunts comparses et s'encourut vers le nord, une nouvelle fois, vers le chalet de l'élu de son minuscule petit cœur d'homme d'affaires. Mais néanmoins, en chemin, en plein galop, Colin eut quand même une petite pensée pour son seul ami désormais mortellement décédé.
Repose en paix, mon cher vieux mouchard. Je te rendrai hommage en empochant désormais ta moitié des parts de notre petite affaire, oui. Je te promets que tes 12% seront bien utilisés.
Après un long galop, Colin arriva enfin à destination, alors que le ciel entamait tout juste le début de sa phase de rosissement crépusculaire. La fleur robuste avait superbement résisté au voyage, et notre cavalier s'en félicitait. Terminant le trajet au petit trot, pour se laisser le temps de préparer l'entrée qu'il allait faire et tout ça, hein, Colin enfila parallèlement sa cape brune et dissimula la rouge dans l'une des sacoches de son cheval. Ensuite, il arrêta la dite monture, cette fois juste devant le chalet. Et devant la porte, le jeune homme prit une profonde inspiration, cacha la fleur dans son dos et frappa.
Oh Colin, c'est vous ?
Bonsoir Marianne, oui, comme promis, vous voyez. Cela dit, je ne suis pas venu seul.
Ah oui, je vois ça, vous êtes venu avec votre ami là derrière vous.
Hein, quoi ?
Bonjour, hein, vous avez l'air d'aller mieux.
Sans pour autant montrer la fleur, Colin pivota légèrement pour regarder derrière lui, juste avant que ses yeux ne s'écarquillassent d'effroi.
« Je vous avais dit qu'il viendrait !»
clama un vieil homme que nous connaissons bien, alors qu'il sortait du bois pour s'avancer vers eux, triomphal, tout en précédant deux chatons et un poussin qui peinaient à le suivre.
« Le revoici, je le reconnais, le porteur de mort, le vaurien, celui qui avait lancé ses hommes contre moi l'autre fois.
Hein ? Mais taisez-vous !
« Absolument, ma petite, je vous l'avais prédit. Ici est pour vous prendre, il est venu, car en vérité, l'inquisiteur, il est... »«
Quoi ? Alors c'est vous qui aviez blessé ce pauvre homme et qui tuait les sorciers ?»«
Non, non, écoutez-moi, c'est plus compliqué que ça. »«
Cela n'a rien de compliqué. Des champignons, tu parles. Pas étonnant, dans une pourriture. »
Je vais vous expliquer, j'ai justement eu...
Colin voulut tendre l'Asinus à Marianne, mais la belle ne prit même pas le temps de la reconnaître. Elle gifla violemment la fleur, au point que tous les pétales en furent chassés. Puis, toujours sur le seuil, elle se pencha vers Colin et vociféra avec rage.
Foutez le camp, et n'y revenez plus, si vous tenez à la vie.
Mais, je vous aime.
Dévasté, notre pauvre ami resta un instant planté là, alors que l'inutile tige d'Asinus lui glissait lentement hors de la main. Ensuite, il repartit vers son cheval, sorti de sa torpeur par les moqueries du vieux prophète.
Namas Pamous, le serpent qui se mord la queue pendant que les souris dansent.
Après le retentissant coup de boule que Colin venait de mettre au vieillard en passant, il remonta sur son canasson et, l'air impassible, retourna en ville, mais cette fois au plus fusant des pas de course.
Oh, oh, je ne l'avais pas vu venir, celui-là. Dessous, je te dois, piou-piou.
Et pendant ce temps, et pour de longs jours ensuite, la pauvre Marianne pleura. L'inquisiteur, quant à lui, était déchiré en deux. Sa raison comprenait la réaction de la jeune sorcière, mais sa passion tendait à reprendre les commandes. Cette part de lui, le monstre, cette voix qui jubilait et semblait narguer son cœur par de puérils. « Tu vois, je te l'avais bien dit, maintenant tu es encore plus seul. » Oui, Colin ne rentra pas chez lui cette nuit-là. Il regagna directement la tour de la milice et maugréa dans sa geôle. En cet endroit, et lors de cette soirée, il fit porter déserteur Mouchard et les deux sbires pour se couvrir, puis il rédigea enfin les conclusions du dossier Marianne. Sans doute notre homme mit-il ses dernières miettes de cœur dans cette tâche, car dans ses constats, il ne chargea pas la jeune fille. Il lui reconnut des activités magiques, mais attesta qu'elle ne représentait pas un danger pour l'ordre public. Cela fait, Colin Mulot se laissa aller à toute sa noirceur durant les temps qui suivirent. Avec les deux sbires qui lui restaient, l'inquisiteur de la ville capitale fut plus impitoyable et méthodique que jamais. Il n'hésita plus à utiliser ses instruments de torture comme autre chose qu'un simple moyen visuel de persuasion. Il pourchassa impitoyablement les sorciers suffisamment actifs pour qu'ils puissent justifier leur mort. Il mit aux arrêts jusqu'aux alchimistes du palais royal et il cumula une immense fortune en poursuivant seul les ventes des saisies. Et c'est justement à l'une de ces ventes que nous retrouvons Colin Mulot. Celle-là même qui avait été évoquée dans la page 3 du livre 27, Le dernier soupir de Marianne. Oui, souvenez-vous. Et d'ailleurs, à propos de cette vente aux enchères, je dois faire... Je dois bien avouer, j'ai fait une petite erreur à l'époque, hein, lorsque j'en avais parlé. Voilà, une petite faute de frappe vocale, j'imagine. Veuillez m'en excuser, donc je vais devoir corriger ça, voilà. Cette vente aux enchères, hein, donc qui avait lieu le même jour que la mise au bûcher d'une certaine créature invisible, n'avait pas lieu, comme dit à l'époque, environ un an après l'incident des carottes, mais bel et bien un mois après l'incident des carottes de Samuel, blablabla, tout ça, voilà. Bon. Bref, maintenant que c'est réparé, revenons-en à cette vente, oui. Car encore une fois, mes chers auditeurs, des foules de choses allaient se produire, et il se trouve qu'elles sont précisément liées à cette vente aux enchères, car il s'y était déroulé une chose lourde de conséquences.
Article suivant, un carnet relié de cuir, manuscrit intitulé « La porte », rédigé par un certain Archibald Berlu, une page est manquante. Les enchères commencent à 10 pièces de bronze. 10 pour madame, oui, 15 par là, 15 pour le grand monsieur, oui, qui dit mieux ?
Une pièce d'or.
Et une pièce d'or pour la demoiselle à capuche, qui dit mieux ? Une pièce d'or en enchère actuelle ? Personne ? Une fois ? Deux fois, trois fois, adjugé.
Outre le triste sort de Marianne, soit la fameuse demoiselle à capuche qui acheta le manuscrit, le jour que nous venons d'évoquer marqua également notre cher inquisiteur. Car, depuis ce jour, depuis cette vente, oui, les affaires allaient mal. Voyez-vous, durant les mois qui suivirent cette fameuse vente aux enchères, à chaque fois que Colin et ses deux hommes faisaient une descente chez quelques sorciers ou sorcières, ce fut toujours bredouille qu'ils revinrent. Étrangement, et à la plus grande rage du fonctionnaire susmentionné, quelqu'un semblait le devancer. Oui, à chaque fois que les agents du département de régulation des activités non naturelles débarquaient chez un suspect, ils retrouvaient là son cadavre éventré et privé de son cœur. Et en outre, tous les objets magiques et autres livres avaient déjà été pillés.
Bordel, mais qui ose me faucher le blé sous le pied, si j'ose dire.
Un jour, lors du dernier meurtre de ce genre en date, Colin retrouva un indice inhabituel. Une phrase étrange avait été écrite sur un mur, dans la maison de la vieille magotte retrouvée alors assassinée, et avec son propre sang. Incapable de déchiffrer la dite inscription, l'enquêteur s'en était allé réquisitionner un vénérable sage dans un village au nord-ouest de la capitale.
Ah, mais c'est du druidique, ça! Cela signifie « craignez l'avènement de sombres meufs ».
Sombre meuf ? Qu'est-ce que ça veut dire ?
Ben, c'est pourtant clair ! Ça dit qu'une sorcière nommée Sombre Meuf va un jour se manifester, et que ça va grave chier à ce moment-là, c'est quand même pas compliqué ! Bon, cela dit, si vous n'avez plus besoin de moi, j'aimerais bien être tranquille, hein, parce que j'ai encore de nombreuses carottes à peler pour préparer mon potage journalier !
Colin quitta dubitatif la chaumière du vieux druide, car ses paroles l'avaient interpellé. Une puissante sorcière était donc en train de s'élever malgré sa vigilance? Et que faisait-elle? Pourquoi ces meurtres? Éliminait-elle toute concurrence pour devenir à la fin l'unique personne du royaume douée de magie?
Marianne!
S'exclama en lui-même Colin, soudain pris de panique, car il venait de réaliser que la donzelle en question allait de fait être la cible de cette sombre meuf, si ce n'était déjà fait. L'inquisiteur ne réfléchit même pas, comme si ce jour avait encore lieu à l'époque où il désirait la jeune sorcière plus que tout. Il renvoya donc ses deux agents à la tour, avant de foncer, à un galop frénétique, vers l'ancienne cabane du pêcheur. Notre ami arriva bientôt sur place, une nouvelle fois de plus, et il bondit alors de sa monture et entra dans la cabane à toute vitesse.
Marianne !
Mais ce fut une grande maison sans vie qui lui répondit. Seul l'écho de sa propre voix revint, réverbéré par d'immobiles rangées de bibliothèques. Colin regarda autour de lui et fut surpris. Les lieux avaient l'air à l'abandon, depuis des jours, si ce n'était peut-être des semaines. Et si certes, une inspection de tous les recoins lui offrit le soulagement de ne retrouver là ni cadavre ni inscription de sang, quelques détails tourmentèrent néanmoins notre pauvre inquisiteur. D'abord, il avait immédiatement remarqué la corde qui pendait à la poutre centrale, et un nœud coulant sectionné gisait sur le sol, juste en dessous. Que pouvait donc signifier ce décor? Et en outre, notre ami s'étonna de découvrir un ouvrage posé non loin du lit au drap poussiéreux.
Bon sang, la porte? Mais c'est ce livre que j'ai vendu l'autre fois. Alors cette demoiselle à capuche, c'était Marianne? Mais toutes les pages sont vierges. Qu'est-ce que ça signifie? Oh, mais attends, et si... Oui, l'affaire du nécromancien, ce livre, le cœur arraché de la princesse Migraine, c'est donc lié. Ce grimoire fait dévorer les cœurs des magiciens pour... Mais bien sûr, l'idiot, c'est pour en absorber la magie, c'est évident à présent. Mais alors, Marianne, c'est donc elle, sombre meuf? Je dois l'arrêter.
Colin Mulot empocha le grimoire vierge et quitta la cabane en fermant la porte. Il enfourcha encore une fois son fidèle destrier et prit la route plein sud, aussi rapidement qu'il lui fut possible.
D'après la liste de recensement, il reste peu de magiciens en vie à l'heure qu'il est. Tant mieux, j'aurai peut-être d'autant plus de chances d'intercepter Marianne sur le trajet de la maison de l'un d'eux. Vite, hâtons-nous.
Sa cape rouge portée par le vent, l'inquisiteur fendit l'air, suivant les routes et les sentiers, et coupant à travers champs lorsqu'il le pouvait. Cet enquêteur déterminé n'avait désormais plus qu'un objectif. Retrouver Marianne. Mais dans quel but, nous demanderons-nous? Mais dans quel but?
Des fois, la lecture, c'est plus dangereux que les jeux vidéo.